nous parlons de la crise d'adolescence. L'adolescence peut même être définie comme une classe d'âge dans certaines sociétés. L'adolescence est avant tout une période de transition entre l'enfance et la vie adulte. Elle s'accompagne de transformations physiques, psychologiques, physiologiques, intellectuelles et sociales. Il survient également pendant cette période un rejet de l'autorité en général, même si cela n'apparaît pas forcément. Alors, c'est pas facile pour les parents et même les adolescents de gérer cette transition. Nous en parlons aujourd'hui avec un éducateur à la vie du Centre Éducation à la vie de Kinshasa. Quelques parents qui ont accepté de partager ce qu'ils vivent avec leurs adolescents ou ce qu'ils ont vécu avec leurs adolescents qui aujourd'hui sont devenus des grands adultes. Nous avons également fait parler les concernés, donc les ados. Merci donc de rester avec nous sur la fréquence de la paix pour suivre ce magazine Parité et Famille. Pour commencer, nous allons tendre le micro à Monsieur Emmanuel Bourama, qui est éducateur à la vie et nous parle de l'éducation en général.
L'invité.
La responsabilité première pour éduquer les enfants revient aux parents. Mais pour bien jouer ce rôle-là, le parent doit avoir des outils nécessaires et avoir la mesure même de sa responsabilité vis-à-vis de l'enfant qui doit grandir en sagesse, en intelligence, et de la société qui a besoin des citoyens bien formés. Malheureusement, on constate aujourd'hui que les parents sont en train d'oublier un peu leur responsabilité de premier éducateur et n'y consacrent plus assez de temps, car très pris par d'autres préoccupations, surtout liées au ventre. Il laisse ainsi l'éducation des enfants à l'école, à la télé, à l'Internet. Et les enfants utilisent aujourd'hui les nouvelles technologies d'information et de la communication sans avoir eu des outils qui les rendent capables de discerner et de faire des choix judicieux qui vont dans le sens de leur épanouissement comme humain. Certains ados imitent même et font ce qu'ils voient à la télé ou sur Internet, sans avoir même la mesure des conséquences sur leur vie future. Parlant des crises, nous pouvons noter que les crises entre parents et adolescents sont inévitables, compte tenu de la période de transition de l'adolescence, donc entre l'enfance et l'adulte, mais une chose est certaine, c'est que ces crises sont gérables. Elles peuvent être atténuées si les parents jouent convenablement son rôle. Rappelons aussi que pour bien éduquer un enfant, il faut le connaître. Le connaître dans le sens de ses dimensions du corps, du cœur et de l'esprit. Et pour le connaître, il faut le fréquenter. Avoir du temps pour lui tout au long du processus de croissance. Dialoguer avec lui dès le sein maternel. Développer chez lui un certain nombre de compétences, dont la confiance en soi, l'esprit critique et la capacité d'action, le savoir communiquer, etc., au fur et à mesure qu'il grandit. Il ne faut pas attendre seulement l'adolescence pour commencer à parler à l'enfant, comme on le voit régulièrement, et bien plus, on ne fait que donner des ordres à l'adolescent, dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, sans même l'écouter. Si on n'a pas pris l'habitude de dialoguer avec l'enfant dès la prime enfance, ce sera difficile d'échanger avec lui quand il est adolescent. Ça va être compliqué. C'est des habitudes que l'on doit avoir dès le bas âge. Parler avec l'enfant, l'éclairer, le comprendre et surtout l'écouter. Mais on constate malheureusement qu'il y a des parents qui ne connaissent pas leurs enfants ni leur évolution affective. Alors, comment peuvent-ils les aider, surtout aider les ados à passer convenablement cette période? C'est cette façon de faire qui est à la base des crises entre les adolescents et les parents. Dans le contexte actuel, par exemple du Covid, les parents et les enfants sont souvent ensemble. Et ça devrait être une bonne occasion d'échanger en famille et éduquer les enfants Alors, surtout par l'exemple et non seulement par la parole. Donc, travailler avec eux à la maison, faire la vaisselle, nettoyer la parcelle, préparer à manger, etc. C'est vrai, le fait d'être ensemble peut être à la base de certains nombres de crises. Mais pour les éviter, il ne faut pas seulement faire des remarques, comme on a l'habitude de le faire. Il faut aussi bien motiver la remarque pour que l'ado, l'adolescent comprenne le bien fondé de la remarque. Mais aussi être capable de le féliciter pour ses bons actes. Ça, souvent aussi, on oublie. L'encourager dans ce qu'il fait de positif, dans ce qu'il fait de bien. Développer une relation de confiance entre parents et adolescents et être ouvert aussi à ses avis et suggestions. Les aider à comprendre, mais surtout les comprendre aussi. L'adolescent a besoin d'être compris. Souvent, les parents ne regardent que le côté négatif des adolescents sans regarder leurs forces et ce dont ils sont capables de faire si on les écoute. Les parents se mettent à se comporter comme des ordonnateurs et l'ado ne doit qu'exécuter les ordres sans respecter, alors que lui aussi a des avis qu'il peut émettre. L'ado a besoin d'être écouté, éclairé et accompagné dans la confiance, dans un climat paisible où le modèle des parents rassure et réconforte. Malheureusement, souvent, ces conditions manquent dans nos familles.
Merci, Monsieur Emmanuel Burama. Je rappelle que vous êtes éducateur à la vie. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure. Le temps pour nous de donner la parole à un parent qui a déjà eu à éduquer des adolescents. C'est vrai, il n'y a pas de modèle parfait. Chaque enfant est unique en sa manière. Alors, vous allez écouter le témoignage de Madame Micheline qui vit en France. Elle nous parle de ce qu'elle a vécu avec ses enfants.
Je suis une mère de famille, j'ai élevé 3 enfants qui sont tous majeurs aujourd'hui. Et je peux dire que globalement, leur adolescence s'est très bien passée. Chaque enfant a sa personnalité, ses exigences, il faut savoir s'adapter à chaque fois. Et mon dernier a 18 ans, il a eu son bac cette année. C'est vrai qu'il est passé d'abord par la difficulté d'être né en fin d'année, en octobre. Donc, il a eu 18 ans après tous ses copains. Il était déjà dans l'impatience de cette majorité, de cet âge-là à avoir. Donc, pour lui, c'était vraiment quelque chose d'attendu. Mais à la fin, il s'est rendu compte lui-même que notre comportement envers lui n'a pas changé. Rien n'a changé. On n'a pas changé notre attitude parce que tant qu'il était avec nous, il a toujours été considéré comme un enfant parce qu'il est sous notre responsabilité. La grande difficulté pour lui aussi, c'est d'être celui qui est resté le plus longtemps avec nous parce que ses 2 frères sont partis à l'université à l'âge de 17 ans. Et lui, il a attendu ses 18 ans pour partir à l'université, pour partir. Et c'est vrai que c'est un moment qu'il attend depuis, je peux dire même l'âge de 15 ans, 16 ans, il espère, il attend ce moment où il partira comme ses frères. Par contre, la grande difficulté qu'on a aujourd'hui avec lui, c'est que, étant donné qu'il a eu ce caractère depuis toujours de vouloir s'affirmer, de vouloir être différent de ses frères, surtout qu'on ne le compare pas à ses frères, aujourd'hui fait que il a toujours eu des choix différents de ses frères. La différence simplement, c'est que tous mes enfants ont appris à jouer un instrument de musique. Ses 2 aînés ont fait chacun au moins 10 ans de piano et lui, il a appris à jouer à la batterie. Il n'a pas voulu faire les pianos comme les autres. À l'école, les 2 autres ont choisi comme 3e langue l'espagnol parce que c'est plus courant ici. Après l'anglais, les enfants choisissent souvent l'espagnol. Lui, il n'a pas voulu faire comme ses frères, il a choisi l'allemand. Donc, des petites anecdotes comme ça, on en a tout plein. Aujourd'hui, À l'âge de 15 ans, lui, il a refusé que son père le coiffe, alors que son père les a toujours coiffés, son frère et lui. Et son frère, aujourd'hui, a 23 ans, il revient toujours se faire coiffer par son père. Mais lui, non. Il a refusé à l'âge de 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui, il a des locks sur sa tête. Il a toujours voulu avoir des coiffures assez particulières. Donc, aujourd'hui, il a des locks. C'est son choix. Et voilà. Donc, il s'est toujours affirmé dans sa différence, dans les choses que les autres n'ont jamais fait.
Merci Madame Micheline Vunda et nous allons encore une fois donner la parole à une autre maman. Elle, c'est Madame Mimi Iyamba. Elle a bien voulu partager également le quotidien de sa cadette qui a 14 ans en cette période de Covid où tout le monde est à la maison. Donc pas facile pour les adolescents et les parents.
Je suis mariée, mère de 4 enfants et ma cadette est en pleine phase d'adolescence parce qu'elle a 14 ans. Elle est en 8e, elle passe en première des humanités normalement. En cette période de Covid où elle est à la maison, les deux premiers mois, elle a pratiquement passé un mois et demi où nous avons essayé de la gérer. Elle avait un petit temps pour une heure ou deux par jour où elle revoyait ses notes, ses cours. Et en dehors de ça, on nous l'avons un peu occupée avec les travaux de ménage. C'est qu'elle n'avait pas pu faire, c'est qu'elle n'arrivait pas à faire parce que généralement elle revenait de l'école assez tard, d'où elle trouvait que tout était presque prêt pour elle. Alors, nous l'avons quand même bourré de travaux. Elle a appris à faire le ménage, à laver la vaisselle correctement, à torchonner, à cuisiner aussi. Ce qui est vrai, c'est que le fait d'être la dernière, elle a l'impression que c'est tout le monde qui l'envoie. Mais ce qui est vrai, elle fait trop de va-et-vient. Elle a appris aussi à faire la cuisine. En tout cas, elle a vraiment amélioré la cuisine. Au début, elle le faisait par passion, c'est vrai, elle peut télécharger ses recettes sur internet, qu'elle essaie un peu de mettre en pratique. Mais en tout cas, elle se retrouve dans ce qu'elle fait et elle aime ce qui est positif pour elle. Décidée à sa place, elle ne le manifeste pas trop. C'est vrai, elle se renferme sur ce point-là. C'est du genre quand les aînés ou papa ou maman a décidé, elle subit. Même quand elle n'aime pas, elle ne sait pas dire que je n'aime pas, etc. Elle peut afficher par un comportement d'indifférence, mais en l'observant, vous savez voir qu'elle n'est pas très contente ou elle n'est pas d'accord avec ce que vous avez dit. Vers le mois de mai, elle a commencé ses cours en ligne. Et pendant ces temps-là, elle avait cours de 9h à 13h et après cela, elle pouvait vaquer à d'autres occupations. C'est vrai que pendant cette période, c'est vrai, au-delà du ménage, elle a appris à faire sa lessive toute seule, elle a appris à repasser ses vêtements toute seule. En tout cas, cette période a été assez intéressante et positive pour elle. Mais c'est vrai qu'elle est un peu dans son monde. Tout ce qu'on lui demande de faire vient très, très lentement parce que au début, nous voyons vraiment, elle le manifeste, pas d'initiative, il faut bousculer. Par moments, ça nécessite à ce qu'on osse les temps. Bon, elle est sous les yeux de pratiquement tous les aînés et les parents. Ce qui fait que par moments, les aînés essaient de prendre un peu le devant et je prends un peu, tout petit peu du recul pour elle. Mais elle est plus dans ses aînés qui s'occupent d'elle. C'est pas très facile avec elle, ce qui est vrai. Ben, avec mon aîné, une fille assez renfermée, qui parle pas beaucoup, mais assez réglo dans ce qu'elle aime faire. Par contre, elle est vraiment éparpillée. Dans ce sens que, elle prend trop de temps quand il faut faire quelque chose. Comme je l'ai dit précédemment, les initiatives, c'est pas son monde. Ce qui fait que on a toujours tendance à hausser le ton vis-à-vis d'elle. Et là, ça veut dire bonjour madame la boude. Elle peut bouder du matin jusqu'à un certain moment. Quand elle ne boude pas, elle affiche une certaine tristesse. Elle se réfugie dans sa tristesse. Bon, elle vous fait sentir qu'elle n'a pas besoin de votre attention. Hein. Elle est dans sa coquille. Elle est dans son monde. Elle évolue comme elle entend. Mais tout en se conformant aux règles et aux principes de la maison, ce qui est déjà établi. Ben, c'est vrai qu'ils montent, qu'ils descendent, ils sont obligés tous de faire pour fil. Elle est en train de suivre le chemin tracé par les aînés. Hein. Donc l'aîné a tracé et passé comme une aiguille et elle, c'est pratiquement le fil qui est en train de suivre.
Vous venez d'écouter Madame Mimi qui nous a parlé de sa fille de 14 ans qui est en phase d'adolescence. Elle nous a fait un témoignage sur la façon dont elle gère sa vie en cette période de Covid.
L'invité.
Alors cette fois-ci, nous allons donner la parole aux concernés, c'est-à-dire les adolescents. Alors, nous avons choisi une fille, elle s'appelle Théa, elle a 17 ans. Suivez son témoignage.
On a appris à mieux parler, souvent parler pas trop, surtout avec les parents qui travaillent tous les jours de la semaine et les élèves qui étudient. Et ça nous a vraiment été bénéfique. Au début, c'était un peu compliqué. Parce qu'on se disait, maman va nous coincer, d'habitude elle n'est pas là et on fait nous-mêmes les choses. Et maintenant quand on traîne un peu pour faire quelque chose, elle crie l'heure. Mais après, ça nous a aidé à se réveiller tôt et à se former aussi. Ça nous a vraiment aidé. Les parents voulaient qu'on fasse ça et nous aussi, et c'était un peu dur. Mais après, on a dialogué, on a appris à mettre des limites, que chaque chose avait son temps et... Ça nous a quand même aidé, même si on y va petit à petit. Quand j'ai envie de faire ce que mon cœur me dicte et que maman m'interrompt ou me dit non, ça me frustre un peu, je me sens un peu bloquée, je me sens incomprise. Et c'est un peu frustrant pour moi parce que je ne sais pas sur quel pied danser. Je dois danser sur ce que je veux ou bien sur ce que maman veut. Et a priori, c'est un peu compliqué tout ça. On a essayé de se parler de temps en temps, savoir comment mettre des limites. Et au fur et à mesure, ça marche. Au début, c'était difficile, mais à plus parler, ça a ouvert les cœurs, ça a ouvert l'esprit et ça nous a aidés. Parler à maman pour lui dire ce que je veux faire n'a pas été facile parce qu'elle a toujours l'impression qu'on est ses bébés, qu'on est ses enfants, c'est elle qui doit tout gérer. Et voir qu'on grandissait, qu'on lui disait que ça suffit, il y a certaines choses qu'elle peut plus faire pour nous. Ça l'alourdissait un peu le cœur, mais au final, elle voyait bien que ses enfants grandissaient, qu'on n'allait pas toujours rester dans le nid familial, qu'on allait tôt ou tard partir. Donc c'était au moins un moyen de nous laisser avancer avec nos pas petit à petit et sûrement. Nous avons eu des temps de crise avec maman. Mais on n'a pas vraiment... Maman, ce n'est pas une personne vraiment qui parlait. Quand elle dit non, c'est tout, tu n'as pas à discuter. Et c'était un peu dur. Et derrière le dos, je me disais, bon, je veux faire. Et elle va pas voir. Mais après, quand je prenais conscience, je me dis, c'est ma mère, elle peut pas dire des choses pour rien. Donc, je dois quand même écouter. Et peut-être que c'est pour mon bien. Et ce temps de confinement a vraiment été bénéfique pour nous et pour ma mère. Parce que on s'est un peu ouvert. Et on a tissé plus de liens qu'avant. Et ça nous a aussi aidé à comprendre certaines choses de son point de vue et à nous forger aussi parce que on apprend tous les jours. J'ai des amis qui se sentent très frustrés parce que leurs parents ne veulent même pas qu'ils sortent devant le portail et ils me disent que ça va pas, mais ils peuvent rien y faire, c'est les parents qui imposent et ils suivent juste la cadence des parents sans rien y faire. Moi, je dirais pour cette période de confinement avec les parents, pour aider les enfants, nous, les adolescents, je trouve que c'est mieux de la communication. Nous, les enfants, on aime se sentir écoutés et compris. Peut-être pas entièrement, mais on aime être écoutés. Et je trouverais mieux pour nous aider les jeunes à sortir de l'adolescence, c'est de nous écouter et approuver peut-être nos bons choix et pas te dire non, c'est juste une enfant, elle comprend rien, et analyser le pour et le contre de ce qu'on dit, et si c'est assez mal, on peut refuser, mais si c'est un truc qui peut nous aider, que les parents nous encouragent, parce qu'un enfant qui se sent encouragé a très facilement la facilité de parler aux parents, de s'exprimer et de toujours tout dire. au lieu d'un enfant où les parents disent tout le temps non, 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 ça le renferme et ça l'empêche de s'ouvrir encore aux parents.
Elle a parlé avec tout son cœur, chers parents, apprenons à écouter nos ados, n'est-ce pas, Théa Oukwaya, qui a bien voulu nous accorder cette interview. Merci. Alors, nous allons terminer cette émission avec Monsieur Emmanuel Bourama, qui est éducateur à la vie, qui nous parle du rôle que les parents doivent jouer dans l'éducation de leurs enfants.
Je voulais vraiment insister sur le fait que, c'est vrai, on n'éduque pas seulement par la parole, mais on éduque surtout par les actes. Ça signifie si un enfant voit un parent ordonner, par exemple, il a de l'ordre dans sa chambre, il a de l'ordre dans ses affaires, il a de l'ordre dans tout ce qu'il fait, l'enfant, il va imiter l'ordre, il va aimer l'ordre. S'il voit les parents ou le papa se lever le matin, le jour qu'il a le temps, balayer la cour, et arranger les choses dans la maison et mettre de l'ordre partout, enlever les mauvaises herbes et tout. Quand il voit ça, les parents le faire, l'enfant, il va imiter. Et l'enfant, comme il aime jouer, il peut commencer par faire avec papa, faire avec maman, parce que en jouant, ça lui fait plaisir. Et en faisant, ça va amener des habitudes. Et ces habitudes vont devenir une seconde nature. C'est vrai qu'il faut demander aux enfants de travailler, mais quand on leur montre le travail, en commençant par travailler soi-même, aller au marché, acheter la nourriture, être à la cuisine, préparer, faire la vaisselle, et si les enfants sont impliqués dans toutes ces actions que font les parents, alors je crois que le message y passe mieux que de rester assis dans une chaise et de dire « faites, 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 faites ». Souvent, ça ne sera pas fait comme nous voulons. Et en plus, ça va énerver le parent. Il va s'énerver avec toutes les conséquences du désénervement, le stress, avec toutes ces conséquences. Donc, je crois que c'est vrai, il faut avoir une attention sur l'éducation des enfants, mais il est bon que le parent soit déjà modèle, parce que c'est son modèle que l'enfant va imiter. Si c'est un bon modèle, il va imiter les bonnes choses. Mais si c'est un mauvais modèle, alors il va imiter cela. Et après, on va l'en vouloir alors qu'on ne lui a pas bien montré le chemin. Hein? C'est vrai, nous avons cette habitude de parler aux enfants, de leur donner des ordres, mais quand ils nous voient nous-mêmes à l'œuvre, alors ils s'impliquent davantage. Et à un certain moment, imaginez des enfants qui voient les parents travailler et ils sont assis. Non, ils seront motivés à un certain moment, ils vont trouver anormal que ce soit les parents qui fassent des choses à leur place. Ils vont les imiter, ils vont chercher à les aider. Et quand on fait ensemble, en famille, généralement, ça fait, on gagne sur beaucoup de plans. Non seulement le travail est fait, mais ça consolide l'union familiale, les relations familiales, mais aussi on y trouve de la joie, on y trouve du plaisir en travaillant. C'est ça aussi. Au fait, des fois, nos parents, nous refusons de travailler parce que nous avons déjà des enfants. Le fait de ne pas travailler a aussi des conséquences. Aujourd'hui, il y a des maladies qui viennent par le fait de ne pas être mobile, par le fait de ne pas bouger, par le fait de ne pas faire des efforts physiques. Hein, ça nous amène des maladies. Donc, en travaillant avec les enfants, on gagne à tout point de vue, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan familial et humain. Il y a beaucoup de choses à gagner, donc je crois que les parents devraient plutôt développer cette capacité d'éduquer à travers les exemples, qui soient des bons modèles que les enfants peuvent imiter, et je crois qu'on y gagnera beaucoup. Si la crise persiste, il est bon que l'on cherche à comprendre d'abord ce qui se passe réellement et chercher les causes de cette situation. Elle peut provenir des mauvaises approches éducatives des parents, leur façon de communiquer avec l'enfant, leur mode de vie entre conjoints, la violence domestique, etc. Elle peut aussi être due à l'enfant lui-même, à cause de ses limites intellectuelles, sociales ou génétiques. Elle peut aussi être due à l'entourage et aux proches de l'enfant. Et elle peut aussi être due à beaucoup d'autres causes. Dans tous les cas, comme on dit, on le dit en lingala, Djokwalembaramine en a été. Les parents ne doivent pas se fatiguer de chercher à mettre leur enfant sur le chemin de la vie. C'est le prix à payer pour être parent. Les choses ne seront pas toujours faciles, mais quand on s'engage, on doit aller jusqu'au bout, en se disant déjà que nous-mêmes, comme parents, ne sommes pas parfaits. Alors, si les parents pensent qu'ils sont vraiment incapables de redresser la situation, ils peuvent solliciter l'aide d'autres membres de famille ayant des relations harmonieuses avec l'enfant, aussi ou consulter des centres d'accompagnement des enfants en situation difficile pour chercher la solution. Donc, c'est dire qu'il y a toujours des voies à exploiter, il y a toujours des choses à faire pour éviter le pire, mais toujours que l'action des parents soit faite avec beaucoup d'amour, dans le sens de sauver, parce qu'il ne faut agir que pour sauver.
Ce conseil de Monsieur Emmanuel Bourama que nous bouclons cette émission. Nous vous retrouvons pour le prochain numéro de Parité et Famille. Merci de votre fidélité au programme de Radio Okapi et merci à l'équipe technique, notamment Alex Clay, sans qui nous n'aurions pas pu être avec vous pour ce magazine. Merci également à Jean-Marc Matouaki pour la réalisation de cette émission. Merci à Thérèse Cancou. Bye, nous nous retrouvons donc pour le prochain magazine. Portez-vous.